Merci de nous regarder sur Djoliba TV News. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité renouvelée à nos programmes et nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue dans votre émission, le QG de l'actu, dont voici les thèmes. Sécurité, bientôt une patrouille mixte des ministres Peul et Dogon. Nous avons vu cette semaine une rencontre entre Peul et Dogon, voilà, pour pouvoir justement essayer de conjuguer les efforts pour mettre fin aux attaques, mais aussi aux enlèvements dans la partie centrale du pays, mais aussi dans la partie septentrionale de notre pays. Et notre second sujet va porter sur cet autre sujet qui a quand même défrayé la chronique cette semaine. Il s'agit justement des investissements, mais aussi des arnaques. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces deux terminologies? Nous essayons de comprendre avec nos différents invités. Notre troisième thème va porter sur le processus de validation de la carte NINA. Nous savons que c'est aussi un parcours de combattant pour pouvoir remplir les formes pour pouvoir aboutir à l'élaboration de la carte biométrique. Pour parler de tous ces sujets, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Boubacar Paitao, journaliste. M. Paitao, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir M. Traoré, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Au passage, je salue mon collaborateur Badou Sidikoba.
Merci M. Badou, M. Paitao, d'avoir accepté cette invitation.
C'est à moi de vous accueillir.
Notre second invité, vous l'aurez compris, il s'agit justement de M. Badou Sidikoba, directeur de publication, mais aussi fondateur du journal Le Triomphe du Mali. M. Badou, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir M. Traoré. Bonsoir à Boubacar Paitao, le grand analyste. Et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous, en ce moment nous suivent sur Djoliba TV. Nous, je l'ai toujours dit, Djoliba TV, c'est un plateau qui est ouvert à tout le monde.
Ok. Oui, c'est un plateau qui est ouvert à tout le monde, ça c'est sans ambiguïté parce que nous donnons la parole à tous ceux qui souhaitent en tout cas l'apprendre, que tu sois d'un bord ou de l'autre bord. Djoliba TV News, comme l'a si bien rappelé notre directeur de l'information, M. Mohamed Atter Alidou, c'est une façon pour nous de pluraliser l'information, la libéraliser si vous souhaitez également. Alors, je disais tantôt, notre premier sujet va porter sur la question sécuritaire. Nous savons très bien que malgré les acquisitions plutôt en matière d'équipement militaire, en tout cas cette sécurité, cette question sécuritaire est encore fébrile, on peut le dire ainsi, pour que, donc, essayer de mettre fin justement à ces attaques, mais aussi à ces enlèvements. Nous avons vu cette semaine une rencontre entre Peul et Dogon. Je vous propose déjà de suivre cet élément avec voilà, nos confrères.
Mon capitaine, mon fouille flagana.
Très bien.
Et mon flou ni Dogon, il faut qu'il ne bâcle. Où l'a nous fait, où mon a nous fait, où en bas il a fait, où ça nous fait. Munde nanu kele unyonche munani farale unyonche terusiani nanae yani terusianga damne flanu dogono bekele nyafuye fana ngambe moyina nae moyen soro fana ube patrouille mexicaine nyonfe ni dogono ni flawe patrouille mexicaine nyonfe nantara dogono dula dogono tinasira kafuko flaw nanu kama parce dogono banchela nantara fladu fana na flow fanat nasira ka foko dogono nana passé flow be dogono chela bo anye fakire bakire problème mu yé kaira djebela kaira national international la flow ni dogono be fakire bakire parce dana masagu président flow ga base kono bi ni chaku kelere kumbi atese kana nga base la wane fana mana boya nebita uka base la meta fotolo baye ni chekou kele de be ne flade nti se gata tolo banunga bazla anti chekou kele la ameterous kele de la wani bi borala an kunya fo anya ntege di nyoma ame barake nyokon fe wa amna o bara la walia moyen bambulo ka yere defan me moyen tambulo ka keleke amba ni jamana nyema ofe ka moyen dama anga se ka jadi se o kele parce que solution ta la jadi su nden toroy fu ka nga jadi su kele we kele flana ala be mali fe mali e jamana barkama de na ma ka e jamana barkama iba solo shaku kele de ba nyon che ni dogono e fly du ona ba kele na e kungo na ba kele fla fana mana dogono e kungo na ba kele mana e dogono na ba me ala e mali e jamana mali e jamana barkama e ala mo kan nyon che wa ala tno kan nyon che an ya fam manipulation fo ita to fla ni dogono ka kele 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 de be o terrorisme kele wa be message mu lancer flade en fanama chia bebe jo jadi sala mene balma flaw de ka chala ne o fo mo go ba fo kunyi kongo flaw be jadi si flabe ti jadi si wa flabe ti ka jadi si parce que nere flay ne ko flabe jadisi ça veut dire que ne fana jadisi flabe ti jadisi mais ne balman de ka chala parce que muna o manipuler la ku do la o negera ku do fena o te fem don ne be mon fouyer o ka boku ko no kana ni jadisi islamia te ni terusi islamia te ay islamia mun sura anfanan baula o le islamia jamana ya beka jamana de ukana ukabokun kono kana nga tredi nyoko ma nga jamana jo ukala je anfa dugu jenna amba dugu jenna moko fagara demsanu fagara makoroba fagara munde ni mlasa ma terusi de ni mlasa ma oduni ya don bone mbalaka i dona kodola ode balaka tika village balaka jini ka bagon balaka jini toro balaka sima mais pourquoi te bola bola ikana ika iye jamana dindi anfle mali drapo de bia drapo fimantan fe ngwe wana antara dana masagu kanfana kuna mta mali drapo de soroi ambe mali ande ambe fakile bakile ndem nebe munfo mbalma flowe ani mbalma dogonoe mugo mugo ndibi terusiala ika bola nafatala labantala odun me kuma de capitaine Boujan Clément ni kuma mba fe ka fo afana bi se ka fo.
Voilà, donc c'était là, hein, en tout cas, un des initiateurs de cette belle, en tout cas, proposition, on peut le dire ainsi, hein, voilà, M. Koubouli. Monsieur Baïtao, voilà, vous venez de suivre le monsieur M. Koubouli par rapport, en tout cas, à cette proposition de patrouille mixte entre la milice Peul et Dogon. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative?
Traoré, je vous remercie pour la question. Sincèrement, à cette phase, j'ai peur parce que sincèrement, je ne peux pas comprendre qu'à cette phase, qu'on continue à renforcer les milices qui, après la gestion, devient c'est-à-dire que, un énorme problème. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire que la défense et la sécurité, c'est-à-dire que c'est du rôle de l'État, le rôle régalien de l'État, de nos forces de défense et de sécurité. Je pourrais comprendre, c'est-à-dire qu'à certaines étapes, c'est-à-dire que lorsque on a commencé, c'est-à-dire qu'avec la crise, qu'on se base sur, qu'on s'appuie, c'est-à-dire que sur des solutions endogènes, c'est-à-dire qu'à travers les milices d'autodéfense, je peux comprendre, mais à cette phase, c'est-à-dire que de la crise malienne, je ne peux pas comprendre qu'on continue à s'appuyer sur des milices pour organiser des patrouilles afin de sécuriser, c'est-à-dire que les Maliens, les citoyens de façon générale.
Mais c'est une initiative personnelle,
oui,
de monsieur.
Oui, d'accord, là. Mais tout compte fait, c'est venu de qui? C'est pas n'importe qui, c'est venu de Boli. Boli, il est aujourd'hui le chargé de mission dans un département stratégique, parce que aujourd'hui nous sommes dans une crise. Les questions de réconciliation, les questions de l'application de l'accord, de la mise en œuvre de l'accord, tout est révolu à un département dont lui, il est le chargé de mission. Maintenant, si lui, c'est-à-dire qu'il tient ce genre de discours, moi je suppose que c'est-à-dire qu'il est en bonne intelligence avec les autorités qui aujourd'hui sont ministres, se trouvent entre guillemets parmi les 5 colonels qui aujourd'hui ont renversé le régime de Ibeka parce qu'il y avait effectivement la question de l'insécurité, parce que j'ai peur, et avec les histoires de milices, partout on a vu les milices d'autodéfense, après la gestion de ces milices, ça va créer un énorme problème. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où on a dit à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, on a fait une communication à outrance que c'est-à-dire l'armée malienne aujourd'hui est vraiment dans une posture of plus, c'est-à-dire offensive. L'armée malienne, c'est-à-dire que c'est dotée de moyens extraordinaires. Moi, je pense que on doit c'est-à-dire commencer d'abord, c'est-à-dire que à faire en sorte de diminuer un peu, c'est-à-dire que le champ d'action des milices, mais je ne pense pas sincèrement que ça soit le moment et que les milices, c'est-à-dire que continuent ou encore envisagent de faire des patrouilles mixtes. Maintenant, quel serait en ce moment le rôle de l'armée? Parce que
Le problème, bon, moi, c'est-à-dire que je peux faire une autre lecture. Est-ce qu'au moment où le gouvernement est dans une dynamique de passer à la vitesse supérieure par rapport à la mise en œuvre de l'accord, si, c'est-à-dire qu'on est en train de voir cela, pour que, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils comptent dans ce processus. Okay. Parce que sinon, moi, je ne vois pas. Et deux ans après la chute du IBK, deux ans, nous sommes en train de dire qu'effectivement, l'armée a changé de posture. Je ne vois pas pourquoi. Et c'est-à-dire qu'on continue à s'appuyer sur les militaires pour sécuriser les Maliens.
Oui, M. Paito, hein, M. Badou, il pense que la nécessité ne l'y est pas, parce que pour lui, il a peur. Il a peur que ces milices ne se substituent pas, même à l'armée, dans les années à venir, dans les autres à venir. Donc, pour lui, tout simplement, l'initiative, il ne la trouve pas opportune. Est-ce que c'est aussi votre lecture?
Ce n'est pas tout à fait ma lecture des choses. Je me situe dans un contexte précis par rapport aux événements. Vous savez que la milice d'Anna Massougou, cette milice a été créée parce que l'armée a laissé un vide. L'Alliance pour le salut du Sahel, qui est proche de Sekouboli aussi, a été créée, c'est pour protéger le peuple contre les attaques terroristes. Donc, il y a un problème délicat qui se trouve à ce niveau. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est que la milice d'Anna Massougou et l'Alliance pour le salut du Sahel soient associées à l'armée gouvernementale comme supplétif. Okay. Donc, ça permettra vraiment à l'armée de combler certains vides. Parce que, comme il l'a dit, si d'Anna Massougou et l'Alliance pour le salut du Sahel font des patrouilles mixtes ensemble, ça va rassurer les deux populations. Parce que tout est parti de la question du terrorisme. C'est le terrorisme qui s'est transformé en guerre communautaire. Et ça a donné comme résultat une guerre ethnique. Okay. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Heureusement que cette fois-ci, les choses ont tendance, le crise a tendance à baisser parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Komogo, à Kolagan, à Sobanda, à Naodje, à Danfagala. Donc il y a eu des tueries de masse. Si un village Dogon est décimé, c'est un village Peul qui est décimé. Donc je crois que ça, ça a tendance à cesser. Mais avec cette alliance, ça va encore renforcer la confiance entre les différentes ethnies. Mais le rôle premier revient à l'armée. Parce que je comprends les préoccupations de nos troupes aussi. Parce que vous savez, on parle de génocide. Il n'y a pas longtemps, l'UNTUN a fait paraître un rapport, l'expert indépendant des Nations Unies, pour situer certaines responsabilités pour accuser l'armée et les terroristes d'avoir commis des exactions. Donc, par rapport à tout ça, il faut être prudent. C'est pourquoi, si cette patrouille mixte arrive à se concrétiser, ça peut peut-être contribuer à apaiser les tensions. C'est vrai qu'une milice reste une milice, mais dans le cas précis du Mali, c'est une nécessité parce que dans la zone de Menaka, c'est le mouvement pour le salut de l'Azawad qui mène souvent des patrouilles, qui combat le Génim et l'organisation État islamique. Donc, vous savez, le Mali est un territoire qui est très vaste. Donc, les milices peuvent être efficaces, mais comme je l'ai dit, il faut que les milices soient associées à l'armée nationale comme supplétif. Ça va favoriser le travail, mais quand même, c'est une très belle initiative de mon point de vue, parce que ça contribue à rassurer. Parce que ce que Boli même l'a dit, il dit que généralement, on dit que c'est les Peuls qui sont les terroristes, alors que il y a des Peuls qui ne sont pas terroristes. Il y a plusieurs ethnies dans le terrorisme, mais c'est les Peuls qui sont stigmatisés parce que les Peuls sont les plus nombreux. Parce que si vous prenez l'ossature du terrorisme, il y a des Dogons, il y a des Peuls, il y a des Sorans, il y a des Bamana, etc., etc. Si vous prenez l'ossature de l'armée nationale est l'incarnation de toutes les ethnies. Donc c'est pourquoi j'ai insisté pour que Dana Massougou et l'Alliance pour le salut du Sahel soient intégrés à l'armée nationale comme supplétif. Donc là, le travail pourra être fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on les laisse à eux-mêmes. Il faut que ces milices-là soient aussi encadrées par l'armée.
Il faut que ces milices soient encadrées par l'armée. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, ces milices-là avaient été dissous par le gouvernement. D'alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Comment comprenez-vous qu'ils refassent surface aujourd'hui?
Non. Ça, c'était de façon officielle, effectivement, du temps du président IBK, paix à son âme. On avait dit que toutes les milices ont été dissoutes et qu'il revient à l'armée nationale sur le régalier de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais dans les faits, les milices n'ont jamais été dissoutes. Parce qu'à un moment donné, certaines autorités même se sont appuyées sur des milices pour pouvoir ramener le calme au centre. Il y a même eu une structure qui a été mise en place pour tenter de gérer la crise tente. Je ne sais pas, la gestion intégrée du centre. Ensuite, on avait nommé le professeur Diongun à travers l'ancien président de la transition comme haut représentant du chef de l'État pour le centre. Donc, dans le seul souci de ramener la paix. Donc, toutes ces actions n'ont pas donné de résultats tangibles. Okay. Et face à cela, je pense que les Sekou Boli et Brahima Sagara, qui est le vice-président d'Anna Massougou, ont pris cette initiative heureuse de dire, mais nous allons nous associer désormais à l'armée pour vraiment combattre le terrorisme, prouver à l'opinion publique nationale et internationale que le terroriste, c'est le terroriste, mais la population reste la population. Vous savez que les Maliens sont unis par le même cordon ombilical, la paix n'a pas de prix. Je crois que le vieux billet de Yaoum Sokoro fait face au fait de à la petite dire la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc la paix n'a pas de prix, et je pense que c'est une initiative heureuse. D'accord. Mais il faut que ces milices soient encadrées par les troupes du gouvernement, si possible même les intégrer à l'armée nationale comme supplétude, parce que les milices ont joué un grand rôle dans le temps. Par exemple, vous prenez la Sierra Leone, de la guerre civile de la Sierra Leone, les sacerdotes traditionnels Kamadjo ont efficacement épaulé l'armée gouvernementale contre le front révolutionnaire uni de Fode Sanko et de Samboka. Même en Côte d'Ivoire, pendant la crise électorale, les Donzo ont joué un grand rôle en appuyant les troupes de Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est des exemples précis qui sont là. Moi, je pense que c'est une initiative heureuse, mais il faut que ça l'État aussi s'associe. Voilà, l'État s'associe à cette initiative et que ces milices-là soient bien encadrées.
Très bien. Oui, tantôt, M. Païta, vous disiez que on sait très bien que Sokou Bouly est quand même chargé des missions dans un des ministères, en tout cas, on va dire, clé de cette transition. Il s'agit du ministère de la Réconciliation et qui est détenu par un des cinq colonels. Alors, est-ce que le fait que Bouly propose une telle initiative aujourd'hui ne serait pas certainement le fruit de son mentor, parce que apparemment c'est ce que M. Païtaou laisse en tout cas présenter dans ses propos.
Oui, la position de Sékou Bouly est un tout petit peu délicate, parce que il faut le dire, il est chargé de mission au niveau du département de la réconciliation nationale, le département du colonel Wagé. Or, ce département, comme il l'a dit, est stratégique, parce que c'est le département qui est chargé de réconcilier les cœurs et les esprits. Peut-être certains vont dire qu'il n'est pas dans son rôle, mais si c'est toute initiative tendant à ramener la paix dans ce pays, moi je pense que c'est une initiative heureuse. Parce que voir un peuple et un Dogon parler ensemble, embouché dans la même trompette, dire notre objectif stratégique commun, c'est la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que c'est une belle initiative, c'est une initiative heureuse. Le peuple malien n'attendait que ça. Parce que entre Peul et Dogon, ce n'est plus le parfait amour. Il faut que cet amour-là revienne. Entre Peul et Dogon, c'était le vivre ensemble, c'était les mariages, etc. C'était les fêtes, etc., etc. C'était les associations pour travailler ensemble. Et le Dogon agriculteur confie son troupeau, n'est-ce pas, au Peul et le Vert. C'était ça au centre. Donc c'est ce savoir-vivre-là qui a disparu quand les terroristes ont infecté ou ont infesté le centre. Donc je pense que c'est un message fort, c'est un message de paix, c'est un message de réconciliation nationale. D'accord. Donc tout ce qui peut ramener la paix, moi je pense que c'est une initiative heureuse. Parce que le cas de l'armée est très compliqué. Vous savez que le Mali n'est pas en ordre de sainteté avec certaines puissances. Et parmi ces puissances, il y a la France. Donc il suffit que l'armée fasse quelques interrogatoires musculés pour qu'on acquise l'armée malienne d'exaction. Donc au finish, on ne fait pas attention. On voit de tel officier est associé à tel massacre. Et on peut même parler de coups pénal international. On pourra même parler de génocide. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire énormément attention. Et je pense que si l'armée arrive à encadrer ces milices, à les intégrer comme supplétifs, je crois que ça va beaucoup contribuer à ramener la paix au Mali.
Ça va contribuer à ramener la paix au Mali. Monsieur Païtaou, vous êtes sceptique, en tout cas vous doutez de la fiabilité, sinon du fait que cette patrouille mixte, en tout cas, soit une bonne chose, parce que vous craignez que les milices ne fassent, en tout cas, des atrocités, certainement, dont vous craignez. Alors, on sait très bien que le territoire malien est quand même vaste. L'armée n'a pas les moyens de recouvrir tout le territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec de telles initiatives, ne peut-on pas dire que ce serait une sorte de bouffée d'oxygène pour la population, parce qu'au moins, elles se sentiront rassurées après le départ de l'armée, quand ces milices-là reprendront le relais?
Et Traoré, je pense que moi et mon cher ami Badou, nous ne jouons pas en fait sur le même registre. Parce que moi, je joue sur le facteur temps. C'est-à-dire que quand on prend toute une crise, c'est-à-dire qu'il y a tout un développement. C'est-à-dire que au début d'une crise, c'est-à-dire qu'il faut des solutions endogènes. Les solutions endogènes peuvent être des milices d'autodéfense, que ce soit en fonction des thèmes, en fonction des ethnies, en fonction des localités, en fonction des réalités religieuses. Maintenant, il va arriver un certain moment où il faut penser à supprimer ces initiatives locales, parce que c'est le rôle régalien de l'État. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une chose, une armée, dans le cadre de sa mission régalienne,
qui a peur d'être accusé d'exaction, et maintenant se fait remplacer, c'est-à-dire que par des, milices. Maintenant, c'est toujours, et surtout que l'initiateur de cette patrouille mixte est un, c'est-à-dire que est chargé de mission dans un département stratégique. Donc toujours, il y aura, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la main invisible de l'État. Maintenant, c'est-à-dire que moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, à cette étape de la crise, on ne doit pas s'appuyer sur, c'est-à-dire, des milices pour, c'est-à-dire que lutter contre, c'est-à-dire que pour défendre ou encore sécuriser les Maliens.
Surtout, ça, c'est que, surtout que ce gouvernement, voilà, dans son message, demande qu'ils aient des armes, non pas pour se, voilà, défendre, parce qu'ils ont ce qu'il faut pour se défendre, donc, mais non pas ce qu'il faut, voilà, pour aller au combat.
Pour aller au combat. Mmh. Donc, ça veut dire que et quelqu'un qui est déjà là pour la réconciliation, maintenant envisage, c'est-à-dire que d'ouvrir les hostilités. Maintenant, moi, mon problème, c'est-à-dire que j'ai un énorme problème de compréhension par rapport à ces deux faits. Je ne comprends pas du tout. Si réellement l'initiative, c'est d'aider, c'est-à-dire que l'État aider l'armée, c'est-à-dire à ramener la paix, c'est-à-dire que sur cette partie, moi je pense que tout le discours, moi je n'ai pas entendu parler de l'armée. Donc ça, il s'agit juste d'une patrouille entre, c'est-à-dire que la milice d'Anna Amasagou et, c'est-à-dire que les éléments de Sekouboli. Maintenant, aujourd'hui, sincèrement, si on confie... Mais nous, on a l'habitude de dire on ne sous-traite pas la sécurité. On ne sous-traite pas la sécurité. C'est du rôle régalien de l'État. Ça, il faut le dire. Maintenant, l'État ne peut pas, c'est-à-dire que se faire remplacer par quelqu'un.
Mais ça, dans la mesure où maintenant, l'État aujourd'hui, n'a pas le moyen de tout prendre.
Non, parce qu'il faut se donner les moyens. Parce que moi, c'est ça, moi, mon problème. Aujourd'hui, on a les moyens, c'est-à-dire que matériels, parce que vu ça, toute la communication, c'est-à-dire que nous avons vu. Maintenant, c'est-à-dire que qu'est-ce qui manque? C'est un problème d'effectif. Et l'effectif, deux ans, plus de deux ans sous la transition, moi je pense que c'est-à-dire qu'on doit procéder à des recrutements. C'est-à-dire que deux ans, moi je pense que c'était largement suffisant. C'est-à-dire que pour doter non seulement l'armée de moyens, matériels nécessaires et de moyens humains, c'est-à-dire qu'à hauteur de sa mission. Moi, mon problème, c'est à ce niveau. Parce que, c'est-à-dire qu'il risque de se produire ce qu'on appelle un glissement. Parce que lorsqu'on s'appuie à chaque fois sur les milices, les cas qu'il a cités, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que il y a toujours des éléments incontrôlés et qui vont commettre des exactions, qui vont commettre des abus. Et tout ça, après, ça va, c'est-à-dire que se retomber sur l'État. Parce que l'État, celui qui parle, on suppose qu'il parle au nom de l'État. Parce que moi, je trouve aberrant, je ne comprends pas que s'il n'est pas en bonne intelligence avec son ministre, qui tient de tels propos. Maintenant, s'il tient de tels propos et qu'il n'est pas du tout d'avis, c'est-à-dire que l'avis du ministre, ça veut dire que nous sommes dans un désordre total. Et c'est encore plus grave. Moi, mon problème, c'est là-bas. C'est-à-dire que je ne suis pas contre la sécurisation des Maliens. Moi, je suis du centre. Mais je sais que ça, c'est le rôle régalien de l'État. D'accord. Deux ans après la transition sous un régime militaire, je ne trouve pas normal qu'on s'appuie, qu'on continue à s'appuyer sur des militaires, et sur des milices pour sécuriser les Maliens. D'accord. Maintenant, le territoire est vaste, mais alhamdoulilah, donnons-nous le moyen de sécuriser ce territoire. Parce que c'est un territoire que nous avons hérité de l'indépendance. De l'indépendance jusqu'à 1991. Ce territoire, nous l'avons tout le temps contrôlé. Comment est-ce que nous avons contrôlé? Interroger ces moyens. Interroger les gens qui, c'est-à-dire que les personnalités, c'est-à-dire que des deux régimes, de l'indépendance jusqu'en 1991, comment est-ce qu'ils ont fait pour sécuriser ce vaste territoire? C'est pas parce que c'est très vaste que nous allons chercher des solutions qui, après, vont créer des problèmes. Parce que, qu'on le veut ou non, les milices, après, la gestion des milices, ça va créer un énorme problème.
Sauf que les données aussi ont changé. Nous ne sommes plus aux années de l'indépendance, M. Pétain.
Oui, non, mais tout compte fait, et personne ne va réinventer la roue. On va juste l'améliorer. Qu'on soit clair. Maintenant, ce vaste territoire, Comment est-ce que ça a été contrôlé de 1960 jusqu'à 1991, où, c'est-à-dire que 80, c'est-à-dire que 16, 17, où ça a commencé à nous échapper un peu. Comment est-ce que nous avons contrôlé maintenant? Et qu'est-ce qu'il faut ajouter à cela? Quelle innovation doit-on apporter à ce que nous avons, c'est-à-dire qu'on fait? Moi, je pense que c'est-à-dire que et c'est pas bon et que l'État recule devant certaines situations.
Okay.
La sécurité, la défense du territoire, ça, c'est le rôle régalien de l'État.
D'accord.
Et à cette phase, moi, je ne trouve pas du tout normal qu'on s'appuie sur des militaires.
Et sur des militaires. Il dit qu'à cette phase précise, hein, il ne pense pas que c'est quand même idéal que l'armée, sinon l'État puisse en tout cas s'appuyer sur des ministres pour en tout cas essayer de sécuriser le pays. C'est aussi votre lecture?
La tête des choses, c'est quoi? C'est que avant que Ibeka ne chute, on avait essayé de mettre en place des sites de cantonnement pour essayer vraiment de déradicaliser ceux qui acceptent de déposer les armes.
Mm-hmm.
Il y a eu le camp de Wadouba, il y a eu Douanza, il y a eu Tenengu. Donc on avait même octroyé le site de Wadouba à la milice d'Anna Amasou.
Mm-hmm.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc la milice d'Anna Amasou s'est rendue compte que si réellement elle déposait les armes, ça risque de se retourner contre elle, parce que les terroristes vont en profiter pour décimer la communauté d'Ogo.
Mmh.
Donc, ça n'a pas fait long feu. Donc, finalement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'État a décidé vraiment de les encadrer, de les associer un tout petit peu à l'armée pour pouvoir faire le boulot. Vous savez que l'expérience a démontré que parfois, les milices sont très efficaces. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina, les volontaires pour la défense de la patrie. Ils sont en train réellement d'aider l'armée nationale à reconquérir des pans entiers du territoire burkinabé.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude à ce niveau? Après, qu'est-ce qui va advenir? C'est ça aussi l'inquiétude de Païtao, M. Wadou?
Non, moi je pense qu'après, le problème ne se posera pas en tant que tel. Après, la solution est simple. Soit on les intègre au sein de l'armée, ou bien on les démobilise en leur donnant les moyens de pouvoir insérer la vie civile. C'est aussi simple qu'on bonjour.
D'accord.
Mais l'essentiel est que la paix revienne, parce que la paix n'a pas de prix. Même au Niger, il y a des milices d'autodéfense qui soutiennent les forces fédérales contre Boko Haram. Et dans beaucoup de pays, il y a des milices. Et l'expérience a démontré que les milices sont souvent efficaces. Les forces françaises libres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la France a été occupée, les forces françaises libres ont joué un grand rôle. Les forces françaises de l'intérieur, à la veille du 6 juin 1944, à la veille du débarquement, mais ils ont procédé à des sabotages, ils ont sauté des trains, ils ont sauté des ponts pour ralentir l'arrivée des renforts allemands. Donc tout ça, c'est des exemples qui prouvent que les milices ont un rôle à jouer. Mais j'insiste sur le mot encadrement. Il faut encadrer ces milices. Sinon, tout le monde sait qu'il est du rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais ça dépend des contextes.
D'accord.
Vous savez, le Mali fait 1 240 238 km². Pour couvrir ce vaste territoire, ce n'est pas facile pour nos effectifs.
D'accord.
Donc c'est pour que j'ai dit, c'est une bonne chose, mais c'est l'encadrement qui reste la condition sur la colonne. C'est très important, il faut encadrer ces milices.
Oui.
Il faut que l'armée aussi les assiste dans leur mission.
Okay.
Parce que, comme je l'ai dit, la paix n'a pas de prix. Le nord a souffert, le centre a souffert. Donc il fallait à un moment donné trouver une solution.
D'accord.
Entre le mal et le pire, moi je pense qu'il faut souvent choisir le mal.
D'accord. Voilà. Je donne la parole tout seul là. Monsieur Païtao, il y a une chose qui est là. On peut quand même penser qu'avec cette initiative de patrouille mixte, cela va mettre fin peut-être à couper court aux rumeurs qui pensaient, qui disaient sinon que, en tout cas, le Mali est confronté à une guerre ethnique. Surtout, on parlait beaucoup de Peul et Dogon. Je pense qu'avec cette patrouille mixte de Peul et de Dogon, cela va certainement essayer de couper court à cette rumeur selon laquelle il y a une guerre ethnique qui se dessine dans notre pays.
Et bon, effectivement, je suis. Bon, de ce point de vue, je peux dire que ça peut contribuer à dissiper un peu cette opinion par rapport c'est-à-dire à une prétendue guerre ethnique au Mali. Mais moi, mon inquiétude, elle est au-delà. Hein. C'est-à-dire que je comprends, il a pris l'exemple sur le Burkina, mais sauf qu'au Burkina, les éléments dont il parle, ils sont sous la coupole, c'est-à-dire que de l'armée.
Okay.
Hein, c'est-à-dire qu'ils évoluent avec l'armée.
Okay.
Ce n'est pas des éléments comme ça dans la nature qui décident ce qu'ils veulent faire. Et voilà, maintenant, ils sont contrôlés et encadrés par l'armée.
D'accord.
Voilà, c'est comme c'est les supplétifs à l'armée.
Mm-hmm.
Maintenant, dans le cas malien, je peux comprendre si aujourd'hui l'armée décide, c'est-à-dire que de mener cette opération et que, c'est-à-dire que l'opération soit dirigée par l'armée, maintenant, eux, c'est-à-dire en tant que, c'est-à-dire que autochtones, c'est-à-dire que de ces différentes localités, ils connaissent, c'est-à-dire que la localité, ils connaissent les coutumes, les us et les coutumes, je peux comprendre que, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec l'armée, c'est-à-dire que les deux ethnies ou encore toutes les ethnies décident aujourd'hui de travailler avec l'armée en fait, pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas de problème ethnique au Mali. Seulement, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a voulu proférer cette opinion comme quoi il y a une guerre ethnique au Mali. Nous, on l'a tout le temps dit. Il n'y a pas de guerre ethnique et il ne peut pas y avoir de guerre ethnique au Mali. Parce que, c'est-à-dire que la partie dont on parle, c'est-à-dire que la langue de communication, c'est le foulfoulde. C'est le foulfoulde, j'ai dit, je suis de la zone. Ouais. Maintenant, c'est-à-dire qu'une langue qui est parlée par tout le monde, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, c'est-à-dire que les autres communautés ils décident de s'attaquer à cette ethnie. Ouais. C'est une véritable aberration. Okay. Moi, mon problème, c'est que on peut s'appuyer sur l'exemple burkinabé. C'est qu'aujourd'hui, les milices d'Ana Amasagou et les éléments de Sékou Boli ou encore autres éléments qui s'inscrivent, c'est-à-dire que dans la République, maintenant, qui acceptent de travailler avec l'armée, que l'armée prend le devant, que l'armée prend les choses en main et ils décident de travailler. Parce que nous savons tous, qu'on le dise ou pas, c'est-à-dire que notre armée a un problème d'effectif. Voilà. Donc, maintenant, ils peuvent travailler avec l'armée. D'accord. Ils deviennent, c'est-à-dire que des supplétifs à l'armée. Ils travaillent pour l'armée. Maintenant, l'armée a le contrôle sur tous les éléments, sur tout ce qui se passe. Même les types d'armes utilisées, c'est-à-dire que par c'est-à-dire que ces éléments, l'armée a le contrôle de tout. C'est-à-dire a le contrôle de tout.
On a l'impression que Badou et vous parlez pratiquement de la même chose, sauf que pas de la même manière.
Non, je dis, non, comme il a pris l'exemple sur le Burkina. Le Burkina, c'est comme ça. Maintenant, moi, aujourd'hui, à cette phase de la crise malienne, que des gens continuent décident d'eux-mêmes de prendre des armes et dire qu'on va défendre notre territoire, on va défendre notre population, j'ai dit que...
C'est un danger.
Voilà, c'est un danger.
D'accord.
Maintenant, si cela est, et qu'on est d'accord avec, ça veut dire que toute cette communication qu'on a faite jusqu'ici... Maintenant, c'est la poudre aux yeux, sincèrement.
Ok. Rapidement, Badou, pour finir ce chapitre-là, je disais tantôt à M. Païtaou que, en tout cas, au-delà de ces inquiétudes, l'initiative doit être saluée pour la simple raison que ça va couper court à cette guerre ethnique dont on veut faire croire aux gens que le Mali est en train de vivre aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est une façon de faire comprendre à la communauté internationale. C'est aussi un message fort à l'endroit de la communauté internationale. C'est pour dire à la communauté internationale qu'il n'y a pas de guerre ethnique au Mali. Et que toutes les ethnies au Mali sont les mêmes. Et que l'objectif aujourd'hui, c'est de combattre les terroristes. Et les deux ethnies qui sont accusées à tort ou à raison de se faire la guerre, ces deux ethnies sont désormais ensemble. Et ces deux ethnies regardent dans la même direction. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est ça le plus important. Parce que moi, je n'occulte pas le rôle des milices. Je n'exclus pas les milices du système. Même pendant la récente guerre civile en Éthiopie, l'armée fédérale s'est appuyée sur les milices Amara pour pouvoir vaincre le TPLF dans la région du Tigré. Et les milices ont joué un grand rôle dans la victoire finale de l'Éthiopie. Donc, c'est des faits qu'il faut rappeler. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est par rapport à la question d'encadrement. C'est pourquoi j'ai dit au tout début du débat qu'on essaye de prendre ces milices-là comme supplétifs, de les intégrer à l'armée comme supplétifs. Donc, là où l'armée ne peut pas intervenir à temps, donc les milices peuvent intervenir avant que l'armée n'intervienne.
D'accord.
Nous savons tous qu'à l'heure actuelle, l'armée malienne a reçu des équipements flambant neufs. Et je dirais même que dans la sous-région, seule la pluie peut frapper le Mali aujourd'hui. Aucune force ne peut frapper le Mali si ce n'est la pluie. Donc tout ça, c'est des avancées. Maintenant, il s'agit d'une guerre asymétrique. Quand c'est une guerre asymétrique, vous ne pouvez pas prendre un avion Sukhoi pour aller bombarder tout un village parce que deux ou trois terroristes se sont réfugiés dans ce village. Donc c'est une guerre asymétrique. Et moi, je pense qu'il faut aussi mettre la priorité sur l'information, le renseignement. La guerre asymétrique joue un grand... La guerre asymétrique, c'est ça. Donc les milices pourront aussi jouer ce rôle de renseignement, informer souvent l'armée à temps et réel pour que l'armée aussi puisse intervenir là où ces milices ne peuvent pas intervenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'aérien qui compte. Et récemment, dans le secteur de Tenenkou, l'armée malienne a fait une prouesse. C'est des parents maliens qui sont descendus et qui ont pu intercepter un groupe terroriste.
D'accord.
Ont pu récupérer des tonnes de céréales, ont pu récupérer du bétail. Maintenant, l'autre jour, j'ai entendu sur une radio de la place où on dit que l'armée malienne a tué des civils innocents à Wankero, etc. Ce qui n'est pas vrai. L'armée malienne n'a tué aucune. Et l'armée malienne n'a pas, excusez-moi, l'armée malienne n'a pas tué des civils à Wankero. Donc, il faut qu'on sorte de ça. C'est pourquoi j'ai dit les milices ont leur rôle à jouer.
D'accord.
Qu'on les intègre à l'armée et qu'ensemble, ils fassent le boulot.
Oui.
Parce que le peuple malien a beaucoup souffert. Alain Foucault l'a dit l'autre, il dit que les Maliens n'aspirent qu'à la paix.
D'accord. Les Maliens n'aspirent qu'à la paix, c'est vrai. Hein. Mais alors, je voudrais tout simplement vous dire d'être un peu plus modéré dans les propos quand vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a que la pluie qui peut frapper le Mali.
Dans la
nous connaissons nos forces de capacité, nous sommes très fiers là-dessus. Nous ne savons pas ce qui se passe chez l'autre. Donc soyons en tout cas modérés sur ce point. Je pense que c'est important.
Non,
c'est important.
Nous travaillons avec les autres.
Ici, les choses sont étalées, elles sont exposées. Mais là, ailleurs, peut-être que ce n'est pas le cas. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, c'est quand même.
Mais c'est l'armée malienne qui est en première ligne dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme.
Et l'honneur reviendra à l'armée malienne de vaincre le terrorisme.
Nous sommes fiers et nous réussissons pour cela et que cela puisse continuer pour le bonheur des Maliens. C'est ce que nous souhaitons également. Ceci nous conduit, mesdames et messieurs, au second thème de ce débat. Consacré aux investissements mais aussi aux arnaques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces deux terminologies? Investissement et arnaque, nous avons vu, bon, cela n'a pas quand même commencé aujourd'hui, nous avons vu depuis belle lurette que cela a commencé d'abord par Premium Vie, si on peut dire ici, Vie Premium, on a vu aussi Knet aujourd'hui, c'est un autre phénomène qui refait surface, notamment avec OpenAI, où on nous demande d'ouvrir les yeux, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Monsieur Badou Sidikoba, qu'est-ce que vous savez de cette question d'investissement avec toute cette structure que je viens de citer?
C'est l'appât du gain facile.
Ah bon?
Aujourd'hui, on veut avoir tout et tout de suite. Alors qu'avoir de l'argent, c'est un long processus. Ça demande beaucoup de temps.
Pourtant, certaines victimes disent ne pas se retrouver dans ce tabac de gain facile dont vous parlez.
Non, mais les victimes ne peuvent dire que ça. Sinon, les victimes se retrouvent là-dedans. Ça, c'est une réalité. Pour Kinet, là où était Kinet à l'ACI, à Bakujo ACI, nous, on avait notre gain à côté. Et chaque soir, on entend des jeux de tam-tam, des applaudissements, etc. Moi, je pensais même que c'est des gens qui préparaient la biennale artistique et culturelle. Mais après, quand j'ai approché le bâtiment, on m'a dit que c'est Kinet. Quand vous amenez de l'argent, ils arrivent à fructifier vos sous. Mais moi, ils m'ont chassé. Parce que moi, ils m'ont dit d'amener 400 000 francs. Maintenant, si j'amène 400 000 francs, d'amener 4 personnes, donc mon argent sera fructifié. Mais moi, je les ai dit, vous travaillez pour moi. Et moi, je vais vous donner 400 000, vous allez me donner 800 000 francs. À quel titre? Je suis votre parent. À quel titre vous allez me donner 800 000? J'ai dit, mais soyez logique. Donc, ils m'ont chassé et ils m'ont dit de ne plus m'approcher de leur bâtiment.
Ça, c'était Kinet. Aujourd'hui, c'est OpenAI.
Aujourd'hui, c'est OpenAI. Et on parle d'Adama Kanté aussi, etc. etc. Moi, je pense qu'on avait une tradition qui nous permettait de gagner de l'argent. Surtout les dames. Il y avait ce qu'on appelle Dimanchini, Samedini, le système de tontine. Donc, chaque samedi, chaque dimanche, les dames se retrouvaient, collectaient de l'argent, 10 000 ou 10 000 ou 20 000, 20 000. Donc, on donnait l'argent à une personne, à une femme. Ça lui permettait de mener des activités génératrices de revenus. Et c'était une occasion pour les dames de se retrouver, de prendre du thé, de nous critiquer, nous, les hommes. Donc, tout ça, c'est à l'époque, ça existait. Mais il y a eu un grand coup en 80 ans. Je me rappelle, il y a une dame qui avait installé une tontine ici. Donc, elle est même sortie à la télévision, vraiment pour donner des explications. Quand elle a ramassé l'argent des femmes, elle a disparu nuitamment, on ne l'a plus revue. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. On parle de OpenAI, il y a Aloe Vera aussi. Aloe Vera aussi a sucé le sang des Maliens. Mais malheureusement, les gens ne prennent pas conscience du danger. Il y a le portefeuille magique aussi. Une fois, il y a un Béninois qui m'a appelé pour me dire que lui, il a le portefeuille magique, il peut me rendre milliards. Je lui ai dit, il faut rendre les Béninois milliards d'abord. Parce que le Bénin est l'un des pays les plus pauvres. Il y a tellement de pauvres au Bénin. Il faut les rendre milliards avant de me rendre moi Malien milliardaire.
D'accord.
Moi, je pense qu'il faut être objectif.
D'accord.
Maintenant, pour le cas de Adama Kanté. C'est un cas qui a beaucoup attiré mon attention.
Je pense qu'on va revenir rapidement. Le temps est passé à Papa Itaou pour qu'il se prononce de façon globale sur cette question d'investissement et aussi arnaque.
Bon, investissement, arnaque, bon, moi je ne dirais pas investissement, je dis plutôt arnaque. Et parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, il y a Kinet, OpenAI, aujourd'hui Adama. Mais moi je vais au-delà. Tout là du sensationnel, c'est vrai. Comme il a dit, les gens sont gagnés par l'appât du gain facile. Sinon, le taux d'intérêt
que ces gens cela brandissent, moi je trouve que aucune institution financière ne peut accorder cela. Souvent c'est des taux de 100%, de 50%, et même les systèmes bancaires les plus fructueux n'accordent pas, c'est-à-dire que ce taux. Moi je pense que au-delà de cela, l'État a sa part de responsabilité là-dedans, en fait.
Okay. On allait quand même en venir à l'État.
Voilà, parce que le problème, c'est que des gens qui acceptent de financer ou encore de confier leur argent à ces gens-là, quelle est la source, en fait, des fonds qu'ils injectent là-dedans? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des structures qui sont chargées, en fait, de contrôler le mouvement. On a un centre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux. On a un centre, une institution dédiée à la lutte contre l'enrichissement illicite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de structures pour chercher à savoir et ceux qui investissent, en fait, ou ceux qui injectent leur argent, c'est comme ça que je vais dire, parce que pour moi, ce n'est pas de l'investissement, ceux qui injectent leur argent, parce que on parle de millions, là. Ouais. Voilà, donc maintenant, ces gens-là, l'argent dont ils ont, injecté, ça vient d'où? La source de cet argent. Parce que, moi, je pense que c'est un système aussi de blanchir de l'argent. C'est un système de s'enrichir illicitement. Parce que ça dit que souvent on propose des taux qu'aucune institution financière ne peut accorder. Moi, je pense que, comme on va revenir un peu à la responsabilité de l'État.
Vous pointez du doigt la responsabilité de l'État. Nous savons très bien qu'il y a quand même une structure, vous l'avez rappelé tantôt. Hein. Mm-hmm. Il s'agit de l'agence API Mali, hein. Mm-hmm. Agence pour la promotion des investissements au Mali. Mm-hmm. Normalement, la structure en charge de la promotion des investissements devrait en tout cas être en mesure de savoir.
Non, je ne parle pas de appui. Hein. Oui. Il y a un centre pour c'est-à-dire que la lutte contre le blanchiment d'argent.
Okay.
Je crois que c'est Saint-Tif aussi, si je ne me trompe pas. Il y a un centre dédié à cela.
Okay.
Lutte contre c'est-à-dire que le blanchiment des capitaux.
Okay.
Il y a c'est-à-dire que une institution pour c'est-à-dire que la lutte contre l'enrichissement illicite. Moi, je pense que c'est-à-dire que ces deux institutions, ils ont vraiment un sujet.
Oui.
Ils doivent traiter cela.
Certaines victimes même de Open Mali disent qu'il y avait des documents officiels, des documents certifiés de l'État qui les ont fait croire que cette structure était...
Voilà. Bon, comme ça dit qu'on rentre un peu dans la responsabilité de l'État, c'est ça, moi, mon problème. Moi, mon problème, c'est que l'État, depuis... ça dit que l'histoire qu'il a rappelée, l'histoire de Badialo, c'est ça, non? Depuis l'histoire de Badialo, Cunette, Aloe Vera, etc., etc. Chaque fois, on voit des trucs. Maintenant, ça doit être encadré. L'État a la responsabilité de sécuriser, c'est-à-dire que les institutions, de faire en sorte qu'il n'y a pas fuite de capitaux ou encore de blanchiment d'argent. Parce que si on peut se lever un beau jour et injecter 300 millions dans une structure comme ça, juste parce qu'on nous a proposé un taux d'intérêt de 50%, de 100%, et l'État n'a aucun contrôle là-dessus. Et après, c'est-à-dire que des scandales des buzz de quelques heures, de quelques jours, et c'est fini, ça en est fini. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit, c'est-à-dire que réellement réfléchir sur tout ce qui... C'est-à-dire que toutes les campagnes, c'est-à-dire que qui se sont passées précédemment, que ce soit Cunette, que ce soit Aloe Vera, que ce soit OpenAI, et surtout que c'est les structures qui, je ne sais pas par quel miracle, ils parviennent à avoir des documents. Hein, et voilà, donc ils parviennent à faire des publicités. C'est-à-dire que souvent, dans des organes, moi je pense que même ces organes, ils doivent être poursuivis pour complicité. Parce que sincèrement, et donc ça va, c'est-à-dire que dans les jours à venir, dorénavant, avant de faire une publicité, c'est-à-dire une publicité
pour... Avant d'accorder la
voilà,
publicité.
Avant d'accorder, c'est-à-dire, voilà, maintenant, c'est aussi le rôle de l'organe de presse. Ou encore de mener des investigations plus poussées sur ces structures qui viennent, c'est-à-dire que des vendeurs d'illusions.
D'accord.
Moi, je pense sincèrement que l'État a une grande part de responsabilité là-dedans parce que l'État est le père de tout le monde.
D'accord.
L'État a ce rôle régalien de sécuriser tout le monde,
d'accord,
de faire en sorte que c'est-à-dire que ces genres de situations ne puissent pas se produire.
Oui, l'État a quand même le rôle de protéger les citoyens. Hein. On sait très bien que dans cette affaire, puisque c'est la plus récente d'Open Aya, certaines victimes parlent justement des documents, comme je suis bien dit, certifiés de l'État, qui les ont fait croire que cette affaire était une affaire sérieuse. Ils ont parlé aussi des publicités dans certains organes sérieux, comme on peut dire ainsi, en tout cas, de toutes choses qui les ont fait croire quand même que réellement Open Aya était une réalité. Alors, la responsabilité de l'État, où est-ce que vous la placez?
Depuis 2012, il n'y a pas d'État. Disons-nous la vérité. Et il a parlé du scientifique. Il y a le groupe interafricain de lutte contre le blanchiment d'argent, Djiaba. Une fois, on a animé un atelier ensemble. Mais les informations que nous ont données, ça fait froid dans le dos. Il y a beaucoup de compagnies de transport au Mali qui vivent du blanchiment d'argent. Disons-nous la vérité. Au-delà de cela, vous avez parlé de ces structures-là qui ont des documents qui ont été délivrés par l'État. Mais qui les a délivrés, ces documents-là? C'est la question qu'on doit se poser. Vous prenez Kinet, par exemple. Pourquoi les gens ont adhéré à Kinet? Une fois, quand Tim Harney est venu, c'est un Malaisien, c'est lui qui dirige Kinet. Il est venu à l'hôtel Salam, on a animé une conférence par rapport à Kinet. Mais il y a des officiels qui ont témoigné, il y a un ministre qui a témoigné. Et ce ministre-là, par la suite, est devenu ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il est toujours ambassadeur. Il y a même Amadou Thiam, le plus jeune député qui a été ensuite ministre, qui était leur consultant à l'époque. Bon, quand vous voyez certaines personnalités en train de témoigner, mais ça rassure la population, ça va encourager la population à investir davantage. Ça, c'est le cas de Kinet. Vous prenez le cas même des caisses dépendantes, prenez le cas de Djemeni. Djemeni est parti en faillite. À présent, Djemeni n'est pas parvenu à rembourser les sous de ses clients. Donc ça, c'est des exemples qui sont là. Donc, pour dire que...
Oui, il y a tant d'exemples qui sont là, M. Oui. Badouz. Oui. Sauf que nous avons quand même l'impression que la population aussi n'apprend pas de ces leçons.
Oui. La population n'apprend pas de ces leçons. Vous connaissez la population malienne. Vous connaissez le niveau de cette population malienne. Moi, je pense que quand des trucs comme ça viennent, c'est à l'État de prendre les devants, de sensibiliser ou d'interdire tout simplement ça. En Guinée, Kinet a été tout simplement interdit dès le départ. L'État malien pouvait faire. Mais il y a un système de corruption très développé dans ce pays-là. C'est ça le fond du problème. Donc, ils peuvent vraiment se jouer de certains pour avoir les documents. Ils peuvent aller voir des cadres malhonnêtes pour avoir les documents. C'est ça la réalité. Parce que quand il n'y a pas d'État, donc on s'offre le luxe de faire ce qu'on veut. Sinon, on pouvait faire barrage à tout ça. Moi, je pense que au lieu d'incriminer la population, moi, j'accuse aussi l'État. Je crois que l'État aura la sagesse désormais de veiller sur ces trucs-là, de faire en sorte que vraiment qu'on n'en arrive plus là. Parce que réellement, Kinet, à le voir, je ne sais pas, OpenAI, vraiment, on fait du mal à la population. Moi, je connais des pauvres dogons qui sont venus ici pour chercher leur pitance. On vendait leur moto pour investir dans Kinet. Je les vois se promener à pied aujourd'hui. Donc, c'est une réalité. C'est réel. Le problème est très profond.
C'est triste et regrettable.
C'est triste et regrettable. Maintenant, c'est à l'État de s'affirmer. Et l'État doit sanctionner des fonctionnaires verrés, les cadres verrés qui s'offrent le luxe de donner des documents à ces gens-là.
Très bien.
Je crois qu'au passage, il faut remercier un magistrat de Fana. Parce qu'il y a un magistrat de Fana qui a arrêté tous les membres de Kinet à Fana et ils ont remboursé la population.
D'accord.
Je crois que quand des trucs comme ça arrivent, dès qu'on sent l'odeur, on sent la poudre, que l'État s'assume, que les juridictions compétentes s'assument, qu'ils arrêtent les intéressés et qu'on rembourse les pauvres populations.
Très bien.
Je pense que
avec
OpenAI, les gens vont ouvrir les yeux.
D'accord.
Les gens vont ouvrir les yeux.
On espère aussi qu'ils vont ouvrir les yeux. Alors, au-delà de toutes ces questions relatives justement à Kinet, à OpenAI, à Premium, à d'autres, nous avons aussi vu cette semaine une autre affaire qui a défrayé la chronique. Il s'agit de l'affaire du petit Yalama Kanté, qui au départ était quand même, pour beaucoup de jeunes en tout cas, un modèle de réussite. En tout cas, un mot là-dessus, M. Badou.
La version malienne de Bernard Mamadov, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la version
malienne
de Bernard Yalama Kanté. Il a 24 ans. Pour son âge, ce qu'il a fait. C'est vrai que il a été chargé par beaucoup de personnes, mais moi je trouve qu'il est très intelligent. Des jeunes intelligents comme ça, l'État doit plutôt les récupérer. C'est vrai qu'il a commis du gâchis en détournant l'argent.
Mais vous le traitez de Bernard Madoff et vous dites que vous demandez à l'État de le récupérer.
Oui, parce qu'il est intelligent. Il est intelligent. Quand on a un tel niveau d'intelligence, vraiment, tu deviens. Au lieu qu'on te brimade, au lieu qu'on te terrorise, on doit plutôt utiliser pour faire certaines choses. Parce que c'est un génie, Adama, à 24 ans qu'il puisse faire une telle prouesse. Vraiment, ça relève d'un travail de génie.
D'accord.
Ce qu'il a fait, ça fait très
bon. Donc vous réussissez de ce qu'il a fait?
Je ne me réjouis pas de ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait beaucoup de victimes. Mais on a coutume de donner toute fortune, il y a un crime. Vous prenez la majorité des fortunes au Mali, il y a autre chose derrière. Adama, quand il est trop jeune, peut-être qu'il n'a pas vite compris les mécanismes, les réalités de la nature, comment faire fortune. Peut-être qu'il allait trop tôt en Belgique.
Okay.
Je pense qu'il est sur les traces de beaucoup. Je n'ai pas entré dans certains détails, mais on a vu le cas de Baba Soura. On a vu un autre cas, ça c'était à Lafiabougou. Il a été dans un pays arabe, il a amené beaucoup d'argent.
D'accord.
Donc il y a plein de cas, mais
d'accord.
Apparemment lui, il a été victime de sa jeunesse.
Ok, rapidement, M. Faitao, un mot là-dessus. Hein.
Bon, et sincèrement, j'ai du mal sur ce coup à comprendre mon cher ami Badou, parce que je crois que Badou est en train de minimiser un peu, de banaliser cette affaire, parce que en traitant le jeune Adama d'intelligent, non, c'est l'intelligence quand ça va dans le bon sens, d'accord, mais quand ça va ailleurs, il faut vraiment mettre fin, c'est comme un virus, il faut traiter, c'est-à-dire éradiquer rapidement. Et c'est comme ça que moi je vois en fait cette histoire de Adama, parce que c'est très beau pour être vrai, avec 10 000 francs, un investissement de 10 000 francs, et parvenir à tout cela, et c'est très beau pour être vrai, sincèrement.
Okay.
Et c'est ça, un peu, c'est-à-dire les économistes, je parle un peu sous le contrôle des économistes, et ça aussi c'est la particularité, comme il a dit, depuis 2012, nous vivons dans une crise et les gens sont désespérés. Et c'est-à-dire que toutes les statistiques ont montré qu'à chaque fois que dans un pays, si les jeux de hasard et ces campagnes-là marchent dans un pays, c'est dit que la population n'a plus d'espoir. Donc aujourd'hui, l'État doit travailler à ramener l'espoir au sein de la population et afin que les jeux de hasard, tout ce qu'on connaît comme jeux de hasard, tout ce qu'on connaît...
Comme les pays Mali, les casinos...
Tout, c'est-à-dire que tous les jeux de hasard, de façon générale, les économies, je parle sous leur contrôle, quand c'est-à-dire que ça fructifie, ça veut dire que les gens n'ont pas d'espoir. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Mais moi, je dis, et le cas de Adama, et c'est très beau pour être vrai, parce que moi, je pense que il a su faire son jeu, et il a pu séduire plus d'un, et beaucoup de chaînes, c'est-à-dire qu'on fait c'est-à-dire que des campagnes. Et moi, je pense que, sincèrement, il faut analyser du fond, c'est-à-dire le problème. Et l'État, je reviens encore à l'État. L'État a ce rôle, en fait, de sécuriser,
d'accord,
de protéger la population.
L'État doit protéger la population, sécuriser la population rapidement. Hein. Nous avons aussi vu tout récemment une autre vidéo dans laquelle une influenceuse dit avoir des plats de djouka qui sont vendus à 50 000 francs, M. Faitao.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cela, parce que nous sommes dans un pays où Et on parle de réforme constitutionnelle, de réforme institutionnelle. C'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. Le Mali n'a jamais de problème de texte. Le Mali a un problème d'application de texte. C'est que les gens sortent de leur cadre et vont aller faire autre chose. Il y a l'impunité. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des lois pour encadrer. Les lois ne sont pas appliquées. Oui, ça donne l'impression que nous sommes dans un parfait désordre.
D'accord.
C'est ça.
Okay.
Sinon, moi, je pense que il y a même une loi qui encadre cela, le fait de chercher trop de bénéfices. Par exemple, un plat de djouka à 50 000 francs. Bon, vraiment, moi, je trouve qu'il y a autre chose. Si c'est vrai, il y a autre chose derrière. Ça tombe dans le cadre du blanchiment d'argent,
d'accord,
et de cet enrichissement illicite, alors que nous avons deux structures étatiques pour combattre ces deux phénomènes. Mais pourquoi ils ne travaillent pas,
d'accord.
C'est ça. Et d'accord, aujourd'hui, il faut faire des lois en cela. Parce que moi, je pense que, le parcours d'un pays, en fonction de l'application, en fonction de tout ça, c'est-à-dire qu'on fait des lois pour corriger les insuffisances constatées dans la marche d'une nation.
D'accord.
Mais une nation ne peut pas rester dans l'état stationnaire, c'est-à-dire que statique. L'état est dans une dynamique continue.
D'accord.
Et dans cette dynamique continue, à chaque fois, on change de texte, à chaque fois qu'on constate des insuffisances. Mais tout ça, c'est parce que tout simplement, on n'applique pas les textes.
Il y a un problème d'application des textes. Très bien, ceci est noté. Nous allons rapidement vous donner 30 secondes à chacun pour pouvoir revenir sur le troisième dossier, parce que nous sommes sérieusement pris par le temps qui porte sur le processus de validation de la carte NINA. M. Faitao, c'est quand même devenu le parcours de combattant et nous pensons que la date butoir est arrivée le 31 mars dernier. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que tous les Maliens puissent se procurer ce document-là?
Et je crois que cette campagne de, d'actualisation des données du RAVEC, ou encore, je pense qu'elle a été très mal inspirée. Très mal inspirée parce que le RAVEC a été fait par des équipes qui ont parcouru tout le Mali. Mmh. Et qui passait de, qui faisait à la limite de porte à porte. Maintenant, pour les 23 millions ou encore 22 millions de Maliens, et si pour actualiser ces données, on confie aux quelques commissariats, aux quelques brigades, je crois que l'objectif qui est derrière, c'est que, qu'on n'en finit jamais. C'est ça, moi, mon inquiétude. Maintenant, le problème, c'est que, oui, on est obligé, on est obligé de donner notre délai. On est obligé de donner notre délai. Maintenant, la question que je me pose est nous n'avons pas le temps, en fait. Nous n'avons pas le temps parce que, théoriquement, c'est-à-dire pour la transition, il nous reste un an, théoriquement. D'accord. Maintenant, nous n'avons pas le temps. Okay. Nous avons tout sauf le temps. Maintenant, et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans ce processus-là, il faut connaître quelqu'un, il faut avoir un bras long juste pour actualiser cette donnée citoyen. Okay. Et c'est très grave dans un pays. D'accord. Et moi, je pense que en mettant tout ça ensemble, okay, bout à bout, je contente tout simplement, okay, que nous avons du chemin à faire. Okay. Et ils sont obligés de donner un autre délai.
D'accord.
S'ils ne le font pas. Et donc, ils seront obligés d'imprimer des cartes, souvent avec des erreurs. Voilà, donc avec beaucoup d'autres insuffisances.
Okay.
Et après, ça dit qu'on va tomber dans cette campagne de correction, okay, sans fin.
D'accord. Oui, Badou, est-ce que vous, rapidement, par rapport à la validation de, ce, de cette carte-là, qu'est-ce qu'il faut?
Avant d'aborder la question, vous rapidement. Savez qu'on a fusillé un individu comme ça. Il a tué beaucoup de personnes à Gao. Il faisait croire aux gens qu'il peut les rendre riches. Maintenant, pour ce qui est du problème de la carte biométrique, je pense que l'État n'a pas pleinement joué son rôle. Je pense qu'il a rappelé le système RAVEC. Ça, c'était des équipes mobiles qui se promenaient de famille en famille pour vraiment enregistrer le nom des gens, les dates de naissance, etc., etc. Et c'est par rapport à cela qu'on a vu la carte NIRA. Je pense qu'on ne peut pas tout laisser au commissariat, aux sous-préfectures, aux préfectures. Je pense qu'il faut décentraliser, il faut délocaliser. Ça, sur ce point, l'État a péché. D'accord. Moi, je pense qu'il faut mettre en place des équipes mobiles. Ce n'est pas encore
surtout qu'il y a beaucoup de cas qui nous reviennent des régions comme quoi que les populations éloignées ne sont même pas encore dans cette affaire de carte NIRA.
Justement. Et ça m'inquiète beaucoup. Or, on doit organiser un référendum bientôt. Et même par rapport au référendum, faisons attention parce que si le nom l'emporte, ce n'est pas bon pour le pays. Donc, c'est pour dire qu'il faut que l'État mène des campagnes de sensibilisation intenses en associant l'ensemble de la presse. Que ce soit la presse dite, je ne sais pas, la presse de la cinquième colonne, je ne sais pas, ou bien que ce soit la presse qui est proche de la transition, qu'on associe tout le monde.
Okay.
Mais par rapport, j'ai revu encore sur la carte biométrique,
30 secondes.
Vraiment que l'État mette en place des équipes mobiles.
D'accord.
Certains vont dans les commissariats à 1h du matin. Ils restent jusqu'à 6h, 7h du matin. Et on compte un certain nombre de personnes et on dit, ah,
c'est fini,
c'est clos, okay, allez revenez demain.
D'accord.
Mais ça ne peut pas aller.
Ça ne peut pas aller. Donc, nous sommes vraiment pris par le temps. Nous aurons voulu, en tout cas, détailler cette question relative à la validation des cartes NIRA, mais nous sommes très sérieusement pris par le temps. Nous remercions de toutes les façons de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec M. Boubacar Paitao, journaliste. Ce fut un plaisir, M. Paitao. Notre second invité était Badou Sidi Koba, directeur de publication. Je suis fondateur du journal Trian du Mali. C'est un plaisir, M. Badou Escobar.
Un plaisir pour moi.
Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons de passer des bons moments de télévision accompagnés de nos programmes. Allez, à dimanche prochain dans votre émission, l'écu et l'actu. Merci.